En direct de l'église de l'Immaculée Conception à Toulouse, nous partons à la découverte de la communauté de la Croix Glorieuse.
Depuis plus de 30 ans, la communauté de la Croix Glorieuse est installée à Toulouse, à la paroisse de l'Immaculée Conception. Mais quelle est donc cette communauté composée de religieux, hommes et femmes, et de laïcs, mariés ou célibataires, vêtus de bleu? Découverte ce matin avec son responsable Christophe Sandrin. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Quelle a été l'intuition de départ lors de la création de la communauté de la Croix Glorieuse, Christophe Sandrin?
Alors, l'intuition du Père Chalmandrier, qui est donc à l'origine de cette communauté, c'était d'arriver à réunir ensemble des hommes, des femmes consacrés et puis des laïcs pour le service de l'Église. Donc la première mission, c'est vraiment le service de l'Église paroissiale et l'investissement de chacun dans ce secteur.
Alors ça a commencé quand même avec des frères qui se sont d'abord rassemblés. Et puis, il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous les relater?
Alors, initialement, on est en région parisienne, à Rueil, et puis il y a eu dans ces environs-là, et des frères, uniquement des frères, au tout premier démarrage en 1981. Et puis, le projet étant d'ajouter des sœurs d'abord à ces frères, en 1983, les premières sœurs arrivent. Et puis, ça va être aussi le moment du déplacement vers Perpignan, où le Père Monseigneur Chabert accueille la communauté. Il lui propose une paroisse, Notre-Dame de la Réale. Et là, nous avons donc des frères, des sœurs, et puis arrive aussi une première famille de laïcs, et puis d'autres qui vont s'ajouter très rapidement.
Les frères avaient demandé dans leur prière à la Vierge Marie, « Vierge Marie, donne-nous un apostolat », et puis aussi à Saint-Joseph, « Saint-Joseph, donne-nous les conditions matérielles pour que nous puissions commencer une vie commune ». Donc finalement, ils ont été exaucés.
Ah oui, vraiment, totalement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, c'est d'actualité. Nous sommes toujours consacrés à la Vierge Marie, Immaculée Conception. Et puis, nous appuyons beaucoup sur une prière à Saint-Joseph pour tous nos besoins. Actuellement, par exemple, nous cherchons à acquérir une maison d'accueil. On prie Saint-Joseph tous les jours, tout le monde, pour obtenir cette maison. Et le projet avance.
Et vous ne vous limitez pas à la neuvaine à Saint-Joseph qui se termine le 19 mars. Alors, vous parliez de Monseigneur Chabert. Il a donc reconnu la communauté comme association de fidèles dans son diocèse. C'était le 30 novembre 1988. Qu'est-ce qui s'est passé après dans le déroulement? Comment ça se fait que vous êtes arrivé finalement à Toulouse?
Alors, la communauté, le nombre d'effectifs augmentant assez régulièrement et assez fortement à ce moment-là, l'idée a été de fonder ailleurs. Il y a eu des premières fondations dans les Pyrénées, pour commencer, et puis à la Valette du Var, donc on s'est éloigné un petit peu plus, et enfin à Toulouse. C'était donc un projet, ça s'est adressé à Monseigneur Coligny, si mes souvenirs sont justes, oui, pour obtenir une paroisse, et ça s'est donc passé comme ça. Et en 1992, la communauté est arrivée ici.
La communauté est arrivée en 1992. Alors, effectivement, il y avait ce désir de servir une paroisse, et puis avec une communion étroite entre des sœurs consacrées, des frères et sœurs laïques, enfin des frères et des sœurs consacrées, des frères et sœurs laïques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christophe Sandrin, ces deux états de vie, les religieux et les laïcs, qu'est-ce qu'ils apportent de particulier à la vie communautaire?
Alors, les religieux apportent aux laïcs la dimension spirituelle et un renforcement de la foi. Ils ont une formation que n'ont pas forcément les laïcs, habituellement n'ont pas les laïcs d'ailleurs. Et ils ajoutent à notre développement intellectuel et spirituel.
Les laïcs de l'autre côté
apportent la dimension humaine et familiale. Les laïcs arrivent avec des enfants, nous avons des couples, alors, il y a aussi des célibataires, mais nous avons aussi des couples. Et ma famille, par exemple, est arrivée à Toulouse, donc en 92. Nous avions 5 enfants, et puis il y en a un sixième qui est arrivé un peu après. C'était vraiment une vie de famille profonde. Et alors, quand je dis une vie de famille, c'est vraiment une vie de famille. Nous ne sommes pas, notre famille n'était pas hébergée avec les frères et sœurs consacrés.
Les familles, vous avez quand même une autonomie.
Voilà, une forme d'autonomie, un logement séparé. J'exerçais une profession dans l'enseignement. Et donc, on avait une certaine, cette forme voilà, de vie un petit peu particulière.
Et vous vous retrouvez en fait pour les offices ou pour d'autres temps fraternels?
Alors, les offices, bien sûr, avec une règle qui n'est pas tout à fait la règle des consacrés. Eux, bien sûr, sont les offices du jour, l'aude, vêpres. Office au moment du repas de midi, puis la messe, l'Eucharistie quotidienne. alors que les laïcs ne sont pas tenus à tout ça. Ils sont tenus à un minimum, l'Eucharistie, 2-3 fois par semaine, et puis on s'efforce d'un office du jour. Donc ici, bon, actuellement, nous sommes, mon épouse et moi, le lot tous les jours.
Bon, d'accord.
C'est pas le rythme des consacrés, mais on essaie quand même d'approcher un rythme de prière un peu plus suivi.
Et donc, pour les temps en commun.
Alors,
donc,
bien sûr, il y a des temps en commun en plus. Oui. Nous partageons les repas pratiquement tous les jours, sauf le lundi, mais tous les autres jours. Nous avons un repas en commun. Et le dimanche, notamment, à midi, nous sommes ensemble. Et puis, sinon, il y a des repas du midi habituellement. Et le jeudi, nous avons un repas de soir, un dîner, ensemble. C'est une forme un petit peu plus liturgique, je vais dire. C'est un repas d'action de grâce, où en même temps, il y a un temps de prière, et puis un temps pendant lequel nous louons le Seigneur pour toutes les grâces reçues dans la semaine, et ça, donc toutes les semaines.
Et donc ça, vos enfants ont participé à tous ces repas avec les frères et les sœurs de la communauté, les consacrés.
Alors, pas tous les repas, le repas du jeudi, non.
Pas le repas du jeudi, d'accord.
Non, parce que ça, c'est quand même entre adultes.
D'accord.
Les autres repas, c'était possible. Alors, ouais. Ils n'étaient pas là forcément toujours, puisque ils ont été en demi-pension assez souvent. Et sinon, ils étaient, associés à la vie communautaire. Et même pour certains offices du soir, ou des réunions que nous avions le soir, ou des temps en communauté, ou avec la paroisse, il y avait un système, une organisation de garde des enfants, avec des frères et sœurs, ou frères ou sœurs, et qui ainsi découvraient ce que c'était qu'une vie de famille par l'intérieur, en gardant les enfants, en faisant le bain le soir quand c'était nécessaire, enfin tout ce qu'il fallait. Bon, on s'efforçait de ne pas leur faire le change des bébés. Il y avait une certaine...
Point trop d'infos.
Voilà.
Oui. Et puis, alors, il y a aussi cette complémentarité, que vous vivez dans les apostolats. Comment elle se manifeste?
Chacun y trouve sa place, en fait. On est tous investis, consacrés comme laïcs, dans les apostolats aujourd'hui. Mon épouse l'est un petit peu davantage que moi, pour la bonne raison que jusqu'il y a 2 ans, j'exerçais encore une profession. J'ai fini ma carrière chef d'établissement, donc j'étais vraiment très
bien occupé.
Voilà. Et j'étais moins investi sur la paroisse. Et puis, je n'avais pas suivi autant de formations que pu suivre mon épouse, donc... si bien qu'aujourd'hui, elle est investie encore un peu plus que moi, mais je rattrape, je dirais pas le temps perdu, parce que c'est pas du temps perdu, mais le temps passé, on va dire. Et je me forme et puis j'accompagne, oui, je participe à des opérations paroissiales, des investissements paroissiaux divers et variés. Voilà.
D'accord. Quand vous parlez de formation, c'est la formation qui vous est donnée par les prêtres, finalement, de la communauté, les frères, ou est-ce que vous allez vous former ailleurs?
On va aussi ailleurs. J'étais à Paris, j'ai fait d'autres sessions. On était aussi dans le Var une fois pour à la découverte de la transformation de l'Église, par exemple, transformation paroissiale. Et puis, bon, une bonne part est faite aussi, en effet, par nos prêtres, qui sont un appui très fort pour nous, bien sûr.
Et oui, bien sûr. Ouais. Alors, évidemment, il y aura tout au long de ce Triduum Pascal des émissions où on va découvrir finalement tout ce que vous égrenez un petit peu. Une émission avec Nathalie Cardon sur la transformation paroissiale. Oui. Comment la paroisse est une paroisse en croissance. Maintenant, ce sont des expressions que nous utilisons. Oui. Et puis, vous parliez de votre épouse, Muriel Sandrin. Évidemment, nous serons avec elle au long de ces 3 jours. Elle pourra aussi nous raconter ce qu'elle fait et puis quelle est sa place dans la communauté. Très concrètement, qui fait quoi dans la communauté? Est-ce qu'il y a vraiment les frères et les sœurs d'un côté, les frères qui sont prêtres pour dire la messe, et puis les sœurs pour des apostolats sur les écoles et environnantes, etc. Et puis vous, dans la vie active, ou est-ce que c'est moins, finalement, moins cloisonné que ça?
Alors, pendant l'exercice de la vie professionnelle, j'étais en effet vraiment sur ma vie professionnelle, et puis donc très peu sur et la vie communautaire et la vie paroissiale. Par contre, depuis que je suis donc retraité maintenant, c'est complètement mêlé en fait, et je fais la cuisine aussi bien que les frères et sœurs font la cuisine pour les repas pris en commun. J'ai des aptitudes au bricolage, donc je m'occupe davantage de bricolage que certaines sœurs qui ne sont pas trop manuelles. Par contre, bon, les prêtres ont un certain domaine qui leur est réservé, en tant que consacré, bien sûr, mais ils participent aussi, tout ce qui est formation, bien sûr, on l'a déjà dit, mais aussi des travaux manuels. Pour le bricolage, je suis assisté d'un des prêtres, Père Jean-Yves-Marie. Et puis voilà, en fait, tout est en commun. Ce sont des services sur lesquels on se positionne.
Donc la catéchèse aussi, l'accompagnement des catéchumènes. C'est par exemple ce type d'apostolat que vous pouvez partager entre laïcs et consacrés.
Tout à fait. J'ai fait de la préparation mariage, de la préparation baptême pendant plusieurs années aussi. Bon, en ce moment, j'ai plus ça parce que je me forme sur la formation pastorale. Mais en effet, on peut très bien être associé à ces démarches-là. De même que les prêtres sont très ouverts à toutes sortes de... Il y en a qui jardinent un petit peu aussi, enfin voilà, c'est dire...
C'est une vie communautaire, vraiment. La communauté a choisi la règle de Saint-Augustin comme règle de référence. Oui. Alors, nous y reviendrons plus amplement demain lors de la table ronde avec sœur Anne-Claire. Oui. Mais en quelques mots, comment cette règle imprègne votre vie quotidienne ?
Alors, on s'efforce de suivre les grands préceptes, je veux dire, de Saint-Augustin. L'égalité de tous, par exemple, chacun dispose de ce dont il a besoin, pas plus, pas moins. La vie spirituelle, la vie de prière, telle que le souhaitait saint Augustin. Donc, c'est vrai qu'on s'appuie sur la règle de saint Augustin. Sœur Anne-Claire vous en parlera plus longuement que moi, et puis plus apte que moi aussi.
C'est une grande spécialiste, m'a-t-on dit.
Oui, tout à fait. Saint Augustin. Oui, elle a fait une thèse. Enfin, elle vous racontera tout ça. Pour moi, la vie de Saint-Augustin, la règle de Saint-Augustin, c'est vraiment l'unanimité nécessaire, par exemple pour toute prise de décision. Et puis dans la vie en commun, on s'efforce d'arriver à une unanimité d'accord, en fait. Dès qu'on fait des choix, qu'est-ce qu'on va faire au prochain week-end, je ne sais pas, autre chose comme ça. On en parle et puis il faut arriver à l'unanimité, l'accord de tous. Moi, en tant que responsable, j'ai des décisions à prendre, parce qu'il y a quand même des organisations qui exigent cela. Mais voilà, on s'efforce dans le cadre de cette règle de Saint-Augustin d'être vigilant à ça. C'est vraiment une vie très démocratique.
Oui, vous ne le faites pas sans avoir au préalable concerté la communauté. Appelé à avoir un seul cœur et une seule âme tendue vers Dieu, c'est un appel édicté par la règle de Saint-Augustin. Oui. Comment ce désir se concrétise-t-il, Christophe Sandrin ?
Alors, l'unanimité dont je vous parlais, c'est on rejoint un seul cœur, une seule âme.
Ah, c'est ça.
Et puis, tourner vers Dieu, c'est notre souhait principal. Une forme d'anticipation du royaume, si vous voulez. On essaie le salut de l'humanité a pour vocation, enfin, l'appel au salut de l'humanité a pour vocation de nous attirer vers le royaume. Et c'est notre besoin, justement, en paroisse et l'évangélisation pour que le plus grand nombre possible de personnes se tournent vers Dieu. Et nous devons montrer l'exemple. Enfin, C'est le concept, si je puis dire. Voilà.
C'est le concept. Vous êtes au début de la marche et puis vous essayez d'entraîner.
L'idée, c'est d'entraîner, tout à fait. Oui. Malgré les difficultés, enfin, parce que nous sommes une communauté très humaine.
Avec sa pauvreté aussi. Ses limites.
Oui.
La communauté de la Croix Glorieuse se met au service de la nouvelle évangélisation en paroisse. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment se réalise concrètement cette évangélisation ?
Alors, la formation des personnes à travers un parcours de formation, notamment monté par frère Pierre-Yves et puis mon épouse Muriel, auquel d'ailleurs je m'associe dans la partie initiale de cette formation.
Et donc c'est une formation pour quoi ?
Pour apprendre à être disciple et disciple missionnaire.
Disciple missionnaire.
Voilà, le chemin c'est ça. C'est à partir d'une découverte d'une vie familiale, la vie paroissiale devant être une vie familiale, jusqu'à je suis disciple missionnaire, je forme des disciples qui vont former des disciples. C'est le principe de la nouvelle évangélisation.
D'accord.
Après, on fait des opérations d'évangélisation dans la rue, par exemple, un certain nombre de samedis dans l'année. Et puis, la veille des grands événements, comme samedi prochain, enfin samedi dans deux jours, on sera dans la rue, sur le Faubourg Bonnefoy. Il y a un petit orchestre qui se met en place pour que les gens se tournent vers nous. Et puis, on va au-devant des gens, et puis on leur donne les horaires, bien sûr, des célébrations pour les attirer, et puis on leur explique un peu qui on est, ce qu'on fait. en essayant de leur dire, ben, venez nous voir, au moins venez visiter l'église.
Et comment êtes-vous reçu?
Globalement, très bien. Bon, maintenant, évidemment, les gens, le samedi, ils font les courses, alors ils n'ont pas forcément envie de s'attarder trop à parler. Et pour nous, ce n'est pas facile. Enfin, moi, je le fais, donc, mais je ne suis pas quelqu'un d'être très extraverti et c'est assez difficile. Mais on est quand même assez bien reçus. Bon, il y a des fois, c'est un peu plus houleux, mais on respecte, après tout, chacun a ses choix.
Et chacun son temps aussi, peut-être.
Et son temps aussi, bien sûr. Oui. Mais globalement, très très bien, il n'y a pas d'agressivité, il y a des gens. Au contraire, je veux dire, il y a même des personnes qui sont heureuses, qui nous remercient de faire ça et d'aller au-devant de ce public.
En tout cas, c'est un public, on le voit bien avec les chiffres exponentiels des demandes de baptême adultes qui ont été diffusées hier par la Conférence des évêques de France. On voit qu'il y a une réelle soif et que nos contemporains se tournent de plus en plus vers le Christ. Je voudrais qu'on parle de cette phrase que vous avez mise sur votre site. Nous désirons rendre témoignage à la Sainte Trinité. Alors la Sainte Trinité, parfois, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu abscon. Mais comment vous le vivez, ça, rendre témoignage à la Sainte Trinité? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
La Sainte Trinité est partout présente dans notre vie. Et on l'a pris très régulièrement, bien sûr, en tant que telle, en tant que Sainte Trinité. Et donc, nous l'évoquons à chaque fois que nous avons l'occasion d'en parler à l'extérieur de la communauté, enfin, auprès du public, elle est évoquée auprès des prêtres, par les prêtres, je veux dire, auprès des paroissiens, dans les célébrations, dans les homélies, etc. Donc elle est vraiment présente dans notre vie aujourd'hui.
Et pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça signifie?
C'est l'association, la Sainte Trinité, et notamment à travers l'icône de Roublev. C'est vraiment le symbole qui nous attire énormément. C'est la communion fraternelle, c'est l'union, la communion des cœurs. En fait, cet amour circulant entre les personnes, les trois personnes divines, que nous essayons de refléter. En fait, c'est aussi ça. Bon, jusqu'à un certain point, parce qu'on ne voit pas la prétention de représenter la Trinité.
Oui, parce qu'on est humain. Enfin,
on est humain, voilà, pleinement humain. Mais l'idée, c'est ça, c'est de relayer cet amour qui circule entre les trois personnes de la Trinité, et dire, ben voilà, c'est cet amour-là qu'on veut vivre, et c'est ça notre fondement, et puis qu'on veut partager et faire vivre à toutes les personnes. Quoi.
Et ça implique aussi de former finalement les paroissiens et de leur expliquer ce que vous vivez et ce que vous voudriez que cette communion soit aussi vécue en paroisse, et puis après, plus largement, avec tous ceux qui vous rejoignent.
Oui, et bon, par exemple, il y a des petits groupes de maisons, des petits groupes de paroissiens, dont la vocation est l'évangélisation, mais en s'aimant particulièrement au sein du groupe. Voilà, qui donc c'était un exemple de circulation de l'amour entre les personnes à l'image de ce symbole de la Trinité, la Sainte Trinité, de l'amour circulant entre les trois personnes.
Voilà, en tout cas, un programme bien, bien élevé, et qui donnera certainement des idées à d'autres personnes. Merci Christophe Sandrin pour votre accueil, en tout cas au sein de la communauté de la Croix Glorieuse. Je vous laisse filer parce que ça va être l'heure des laudes. Vous allez donc vous préparer. À tout à l'heure.